dans les petits fascicules. Les petits fascicules. La métaphysique, les philosophies de l'être est-elle encore possible, hein? Alors, premier fascicule, signification de la métaphysique. Page 55, où vous pourrez regarder l'origine de ce terme ontologie. C'est toujours intéressant à regarder ça, hein? Vous voyez, avec Malebranche, la métaphysique de l'être devient vision de Dieu. C'est Dieu qui est saisi en premier lieu. La théologie devient première et absorbe la métaphysique. Alors, ces confusions réclament de nouvelles précisions, mais au lieu de les faire en pénétrant plus avant, on précise en matérialisant, en divisant au lieu de distinguer. C'est ainsi que Wolf divisera la métaphysique en ontologie et en théologie naturelle, comme s'il s'agissait de deux sciences ayant chacune leur objet propre et leur propre finalité. Donc, page 55. Alors, le terme ontologie n'est pas de Wolf, mais de Klauberg, auquel Wolf décerne le titre d'Optimus Omnium Confessionné Cartesi Interprète. Donc le meilleur parmi ceux qui font dans la confession de Descartes, hein, c'est extraordinaire, c'est une religion, oui, cartésien. Mais ça montre bien que l'ontologie, vous voyez, remonte à Descartes, hein, c'est le meilleur des interprètes. Et qui, en 1646, écrit dans sa métaphysique, dont le sous-titre est Ontosophia. Très amusant. Dans sa métaphysique a comme sous-titre Ontosophia. C'est pas psychologique, c'est Onto. L'Ontosophia. Avant des rangs de logique. Le titre, il écrit une métaphysique. Je vous explique. Donc, en 1646, alors il dit ceci, donc le sous-titre est Ontosophia, il écrit ceci, il y a une certaine science qui contemple l'être en tant qu'il est, c'est-à-dire en tant qu'on le comprend comme ayant une certaine nature commune, qui est à sa manière en tous et en chacun des êtres. Vous voyez très bien, vous contemplez cet être qui est commun à tous les autres, c'est un petit brouillard, vous voyez, commun à tous les êtres. Alors vous contemplez ce petit brouillard commun à tous les êtres. C'est-à-dire en tant qu'on le comprend comme ayant une certaine nature commune, qui à sa manière, en tous et en chacun des êtres, est. Cette science est appelée vulgairement métaphysique. Vulgairement, hein, vous voyez bien, au XVIIe siècle, il faut être distingué. Donc, cette science est appelée vulgairement métaphysique. Alors, je vous lis encore. Est quidam scientia, qui contemplatur ens in quantum ens est. Hoc est in quantum communem quamdam intelligitur habere naturam que omnibus adeo et singulis omnibus suo modo in est. Ea vulgo metaphysica sed absius ontologia vel Scientia catholica, c'est encore plus beau. Oh, c'est énorme, hein, de voir ça. Et ça, c'est l'origine de l'ontologie. Vous voyez, un baptême assez curieux. C'est très, très curieux, c'est très intéressant à voir ça. Donc, vulgo, vulgairement, on l'appelle métaphysique. C'est axius, donc c'est mieux de dire ontologia. Vers Scientia Catholica. Donc, on
ontologie, la première fois où ontologie apparaît en philosophie, on dit ontologie égale science catholique. Et il y a un cours de science catholique.
C'est l'ontologie. C'est le baptême. Ontologia, scientia catholica, alors donc c'est une science totale, c'est la philosophia universalis, la science universelle. Donc si vous trouvez ça dans son livre sur métaphysique, chapitre 1er, Opera Omnia, page 283. Et dans ces elementa philosophiae, sive ontosophiae, Clauber écrit, puisque la science qui concerne Dieu s'appelle théosophie ou théologie, il semblerait convenable d'appeler ontosophie ou ontologie la science qui ne traite pas de tel ou tel être en tant que distincte des autres en raison de son nom spécial ou de ses propriétés, mais de l'être en général. Dans le cas de sa division de la philosophie, Wolff définit l'ontologie ou philosophie première comme la science de l'être en général, ou en tant qu'il est être. Ontologia, ce ou philosophia prima, est scientia entis in genere. Ce ou quantum, en tant qu'il est être, en tant qu'il est. Ontologia, ce ou philosophia prima, est scientia entis in genere, in quantum est. Donc vous voyez bien comment est né le terme d'ontologie. Il est né pour avoir un terme plus propre que métaphysique, qui était un terme vulgaire. Il y a une partie vraie dans tout ça, c'est comme toujours, il y a quelque chose de vrai à ce que je dis, métaphysique. Ce n'est pas le terme propre. Aristote n'a jamais appelé sa philosophie première philosophie. C'est un terme, si vous voulez, le bibliothécaire. On ne demande pas aux bibliothécaires de donner des termes propres. On leur demande d'avoir un bon fichier. Alors, c'est un terme qui est un bon fichier métaphysique. Alors, on comprend très bien comment Clauber et puis Wolff après, donc au XVIIe siècle, ils arrivent à dire ontologie. Ontosophia ou science catholique. Très très bien. Voilà l'ontologie. Et c'est regarder la philosophie en général, l'être en général. Et on oppose ontologie à théologie. Théologie, c'est regarder un être tel qui est Dieu. Tandis que les autres, c'est tous les êtres en général. C'est le brouillard commun de tous les êtres dans lesquels ils sont.
Et dès lors, enfin, Heidegger dira ontologie fondamentale. L'ontologie fondamentale pour opposer cette ontologie fondamentale à la métaphysique. Alors voilà quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que dans la pensée de Wolff, dans la pensée de Clauber, ontologie ne s'oppose pas à métaphysique. C'est le terme vulgaire, c'est le terme propre. Tandis que dans la pensée de Heidegger, ontologie fondamentale s'oppose à métaphysique. Vous voyez bien la différence. C'est ça qu'il faut bien saisir. Pourquoi, dans la pensée de Heidegger, ontologie fondamentale s'oppose à métaphysique? Parce que pour Heidegger, la métaphysique, ou l'ontologie, c'est l'étude de l'étant. Ce n'est pas l'étude de l'être. C'est l'étude de l'étant. Or, l'étant, c'est ce que je constate, c'est ce que je vois, c'est le donné. C'est le donné que regardent les sciences.
Les sciences particulières, elles étudient les diverses catégories des êtres. Donc elles étudient les étants. Les étants en tant qu'étant. Or, il faut découvrir l'être dans toute sa pureté.
particulière
l'être. Et là, il faut penser l'être. Alors, c'est déjà très beau,
vous voyez. Alors, pour Heidegger, vous savez bien, l'ontologie, la métaphysique, l'ontologie vulgaire,
devait exister. Historiquement, c'est un fait, elle devait exister. Mais elle n'a pas été assez loin. Il faut revenir maintenant au premier moment où on a pensé le point de vue de l'être,
c'est-à-dire à Parménide. De Parménide à Heidegger. Et entre deux, il y a eu le logos de l'étang. Il y a eu la raison de l'étang, le logos de l'étang. Il y a eu la réflexion sur l'étang.
Et en voyant l'étang, on a distingué essence et existence. C'est dans l'étang qu'il y a la distinction d'essence et de la distinction entre essence et existence. C'est à l'intérieur même de l'étang.
Ça, c'est la métaphysique. Mais la métaphysique ne nous fait pas atteindre l'être. Alors, pour redécouvrir l'être, il faut venir à Paris.
Oui, c'est quand même très curieux, c'est très intéressant de voir ça. Alors, dans la perspective de Heidegger, la métaphysique est dépassée. La métaphysique est périmée. Je dis bien dans la perspective de Heidegger. Or, ordinairement, vous savez bien, on répète sans comprendre. Les gens qui disent que la métaphysique est dépassée, demandez-leur, qu'est-ce que c'est que la métaphysique pour eux ? Bon, ils ne sauront pas. Donc ils répéteront sans savoir. Le propre du philosophe, vous savez bien, peut-être un peu comme Socrate dans notre temps d'aujourd'hui. Et quand quelqu'un vous sort des choses énormes, on lui demande, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-moi un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que la métaphysique pour vous? Alors il sera d'abord très gêné, parce qu'il ne saura pas du tout savoir ce que c'est que la métaphysique. Parce qu'ordinairement, il répète. Et ordinairement, il vous dira des choses énormes, et vous verrez tout de suite qu'il n'a rien compris à la métaphysique. Alors je vous dirai, écoutez, avant de dire que c'est périmé, sachez un tout petit peu ce que ça veut dire. Alors, je reprends le problème, parce que c'est important. Il s'agit, vous voyez, du statut de secours. Hein. Si la métaphysique est périmée, bon, très bien, hein, tu la peine. Bon, si la métaphysique n'est pas périmée, si la métaphysique a encore un intérêt, elle a quand même duré 2000 ans. Elle a quand même la vie dure, hein, la métaphysique. Elle a duré 2000 ans. Enfin, on ne va pas l'écraser comme ça dans un petit poussin en disant c'est rien du tout. Mais non. Et même beaucoup plus de 2000 ans, puisque pour Heidegger, pour remonter à Parménide, vous êtes d'accord que Parménide est une source. Mais pour moi, Parménide est une source. Et je continue, Aristote. Alors ici, la métaphysique, peu importe, ne discutons pas sur la question des mots. Pour Saint-Avant, philosophie première et métaphysique, c'est la même chose. Mais attention, pour Paul, et c'est là où j'arrive, pour Paul et pour Flaubert, la métaphysique, l'ontologie, n'est plus du tout ce que Saint-Avant appelle métaphysique. Alors c'est là où il y a eu un déraillement. Il y a eu un déraillement. Comment se fait-il que le même mot va couvrir des choses totalement différentes? Pour Wolf, pour Flaubert, la métaphysique, c'est tout simplement une science qui regarde l'idée d'être. L'idée d'être incommuni. C'est pour ça qu'on parle de l'être ingénéré. L'être pris de façon commune. Donc c'est l'idée d'être dans laquelle tous les êtres, la vache c'est de l'être, cette table c'est de l'être, je suis de l'être. Nous sommes tous dans le brouillard de l'idée d'être. Nous sommes tous enveloppés de ce brouillard d'idée d'être. Comment se fait-il, vous voyez, qu'à un moment donné, ça c'est intéressant, ça on le dit pas habituellement, hein, à un moment donné, il y a eu un glissement. Le passage de la métaphysique, autrement dit, pour avoir des noms, Saint-Avant,
Simplement, pour lui, philosophie première et métaphysique, c'est la même chose. C'est-à-dire que la métaphysique, c'est ce qu'Aristote appelle philosophie première, philosophie du tour éon. Alors, comme ça ne parle pas grec, il dit es, in quantum es. C'est une bonne traduction. Es, ça donne dit lui-même, es, hein, c'est le latin du tour. Alors, es, traduisez ce qui est. Et ça, c'est la traduction rigoureuse de saint Thomas. Saint Thomas dit es, quoi d'être. Il est quod est ce qui est. Donc, ce qui est en tant qu'il est. Pour saint Thomas, la métaphysique et la philosophie première d'Aristote ont le même sujet, ce qui est en tant qu'être. Tandis que chez Vol, alors c'est très important, n'oubliez pas, Vol, il a été de cette manière, celui qui a influencé en premier lieu Kant. Quand Kant parle de la métaphysique et de l'ontologie, il regarde Vol. Il ne regarde pas du tout saint Thomas. Kant ne connaît pas saint Thomas. Il n'a jamais lu saint Thomas. Pas lu une seule lettre de saint Thomas. Ce grand philosophe méconnaît absolument Aristote et saint Thomas. Le seul philosophe qu'il connaît, le seul métaphysicien qu'il connaît, c'est Vol. Il a écrit un bon bouquin, Vol, ce que voulez-vous. Alors c'est évident, c'est quelque chose d'important, c'est massif. Donc il connaît Vol, l'ontologie de Vol et la métaphysique de Vol. Qu'est-ce que c'est que cette métaphysique et cette ontologie de Vol? C'est une métaphysique et une ontologie qui commence par l'idée d'être. Donc, on est en face d'une idéologie. Alors, je comprends très bien la réaction violente de Kant, qui dit la métaphysique n'existe pas, telle que Vol l'a dit. Elle n'existe pas. Alors, Heidegger a le mérite après Kant, il faut bien connaître. Hein. Heidegger, entre deux, il y a Kant, hein, qui n'existe pas. Kant, qui fait la critique de toute la métaphysique. De toute la métaphysique, de toute l'ontologie de Vol. Et alors, après Kant, nous avons Heidegger, sans parler ici de Hegel, mais entre deux, on va parler de Hegel entre deux. Hegel, vous savez bien que c'est le plus grand ennemi de Kant. Si vous êtes hegelien, faites attention. J'en ai quelque chose. C'est le plus grand ennemi, pas les plus grands, c'est-à-dire, pour voir comment Hegel injurie Kant. Les philosophes entre philosophes, ils s'amusent, hein, c'est normal, que voulez-vous, ça, c'est... Alors, Hegel, c'est un imbécile, il n'a rien compris du tout à ce que c'est que l'intelligence, il a tué l'intelligence. Hegel, vraiment, c'est celui qui va bombarder Kant. Et alors, après Kant et Hegel, nous voyons Heidegger qui va revenir à l'ontologie fondamentale.
C'est beaucoup de courage de la part de Heidegger, il faut le reconnaître. Hein. C'est beaucoup de courage de reconnaître que la métaphysique a eu son temps. Et quand Heidegger parle de la métaphysique, il parle toujours de la métaphysique dans le sens de Vol, dans le sens de Kant. La métaphysique a eu son temps, il faut redécouvrir aujourd'hui une ontologie fondamentale. Et cette ontologie fondamentale, c'est l'ontologie pensée d'être. Vous voyez ? Alors, intéressant votre position, et c'est bien, c'est intéressant de voir ces divers moments. Vous voyez, c'est, je vous donne un chaîne qui est juste, qui est gros, parce qu'on ne peut pas avoir tous les détails. Mais c'est très intéressant de voir comment ça a passé. Alors, la grande question, là je crois qu'il faut tous se la poser, la grande question, c'est de voir comment la métaphysique de saint Thomas, qui s'identifie à la philosophie première d'Aristote, est venue avec
splendeur et avec force une ontologie, une idéologie de l'être.
C'est intéressant à voir ça. Comment, à la place de regarder ce qui est, on part d'une idée d'être. Et l'idée de l'être in communi, de l'être pris comme un genre, in genere. Alors, je crois qu'il faudrait remonter ici, aux théologiens, de vous, la faute des théologiens.
Il faudrait remonter aux théologiens, il faudrait remonter au 14e siècle.
Il faudrait donc remonter à Occam. Occam est né 30 ans après saint Thomas, après la mort de saint Thomas.
Après la mort de saint Thomas, apparaît Occam.
Occam franciscain. C'est pas parce que je suis franciscain dominicain, pour vous dire,
hein? Mais c'est franciscain. Occam. Alors,
lui identifie métaphysique et logique.
La métaphysique, c'est la logique.
Et donc, c'est la science de l'universel. La métaphysique, c'est la science de l'universel. Eh bien, à partir de Occam, l'idée devient première. Alors, il y a un lien entre Occam et Descartes. Il ne faut pas oublier que, vous savez bien ce qu'on dit habituellement, l'originalité de Descartes, c'est de dire que le point de départ de la philosophie, c'est le cogito. Vous savez ce que dit Occam? Quel est le point de départ de la philosophie? Le point de départ de la philosophie, c'est intelligo. Et comme il est franciscain, intelligo est amo Socratem. Parce que dans le cœur d'un franciscain, il y a toujours un peu d'amour. Alors, j'intellige et j'aime Socrate. Descartes dira cogito. C'est exactement la même position. On comprend très bien, n'est-ce pas ? Il y a un lien, oui, c'est ça qui est très curieux. Il y a un lien entre Occam et Descartes, où on est alors en face du primat de l'idée. Et dans Vol, c'est le primat de l'idée. C'est l'idée d'être qui commande tout. L'idée d'être, en général, qui commande tout. Cette idée d'être va envelopper toute la science de l'être, toute la connaissance de l'être. Et cette ontologie va se distinguer d'une théologie qui va regarder un être particulier, l'idée de Dieu que nous avons. Et c'est à partir de cette idée de Dieu, l'idée de l'être infini.
Entre Occam et Vol, qu'est-ce qu'il y a là-dessus en fait? Et c'est ce qui explique comment pour Siaret, la métaphysique, c'est l'idée d'être. Et l'idée d'être est finie ou infinie. Vous avez donc la deuxième des grandes différences, l'ontologie générale et la théologie. Et ça vient tout simplement parce que l'idée d'être est finie et infinie.
Et tout ça provient du primat de la logique. Et alors, comment progressivement on a glissé de la métaphysique aristotélicienne, qui regarde ce qui est en tant qu'être, vers l'ontologie, l'idée d'être, l'ontosophia, l'idée d'être, et ceci provient d'Octave Suarez. D'Octave Suarez Descartes. Où l'idée est passée devant la réalité. Je ne dis pas plus, hein, c'est simplement pour vous faire comprendre que le problème est complexe. Et quand on dit alors, à la suite de Heidegger, on dit la métaphysique est périmée. Faisons attention. Quelle métaphysique? Il faut tout de suite poser la question.
Quand quelqu'un vous dit que la métaphysique est périmée, à la suite de Heidegger, vous dites quelle métaphysique? Quand Heidegger dit que la métaphysique est périmée, Heidegger pense à la métaphysique de Suarez. Il pense à la métaphysique qui commence par l'idée d'être. Ça, c'est vrai, il a existé une métaphysique comme ça. Suarez, les disputationes métaphysiques de Suarez sont à partir de l'idée d'être. Et quand on regarde l'idée d'être, c'est fini à fini. Donc, c'est une métaphysique qui commence à partir de l'idée. Donc, c'est une idéologie. Que l'idéologie soit périmée, tant mieux.
Et donc, ça,
ça va faire un grand trait là-dessus, jusqu'à Octave. Nous devons donc, grâce à Heidegger, liquider tout ça et revenir à Parménide, Aristote et Saint Thomas.
Vous voyez bien comment je me sers de Heidegger, parce que c'est vrai ça. Heidegger serait là, il serait tout à fait d'accord. Parce que l'ontologie de Wolff, qui provient justement de cette idée d'être qui est première, eh bien c'est très vrai, elle n'aboutit à rien. Heidegger a parfaitement raison de dire, si je commence ma métaphysique par l'idée d'être, je n'atteins jamais ce qui est. Et je n'atteindrai jamais l'être. C'est très vrai. L'idée d'être masque l'être. Et c'est très vrai que l'idée d'être masque l'être. Parce que l'idée d'être m'empêche de découvrir l'être. Il faut donc nier l'idée d'être pour redécouvrir l'être. Pour redécouvrir l'être dans sa pureté première et primitive. Vous voyez comment il y a une espèce de purification absolument nécessaire à faire dans notre intelligence si nous voulons redécouvrir ce que représente la philosophie première. C'est pour ça que j'aime mieux dire philosophie première. Officiellement, on dit métaphysique. Mais j'aime mieux dire philosophie première parce que c'est plus intelligent. Alors, j'aime mieux toujours un terme plus intelligent qu'un terme moins intelligent. Métaphysique, c'est pour les fonctionnaires. C'est pas, tandis que philosophie première, c'est Aristote qui a appelé cette science philosophie première. Et c'est vrai, c'est Aristote qui l'a inventée. Et Parménide qui en a été son inspirateur. C'est très vrai. Parménide est celui qui, le premier, a découvert qu'il y avait un regard sur l'être. Mais vous savez très bien comment Parménide a découvert ça. Il a découvert ça dans une révélation, dans un poème religieux qui implique une révélation. Et donc, s'il le découvre dans une révélation, pratiquement, c'est pour lui. C'est pas concessif. Mais l'être a pénétré en philosophie. Nous le redécouvrons chez Platon et nous le redécouvrons chez Aristote. Alors, il faut maintenant essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette philosophie de l'être en tant qu'être. Et vous voyez bien comment nous faisons, hein? Nous acceptons qu'une idéologie de l'être est périmée. Tant mieux qu'elle est périmée. Et qu'elle est périmée par Heidegger, c'est très très bien. Qu'elle soit supprimée par Kant, c'est très bien. Parce qu'au fond, Kant était en face d'une idéologie. Et avant, c'est tout le problème de Kant. Comment, de l'idéologie, je peux rejoindre le réel? Le problème de Kant, c'est ça. Comment, exactement comme on dit aujourd'hui, aujourd'hui on dira comment, de l'intentionnalité, je peux rejoindre le réel. Et on dira la même chose, comment, de la philosophie du même, je peux rejoindre l'autre. C'est la même chose. Vous voyez, ce serait intéressant de mettre en parallèle de ces expressions, parce que ça montre bien un problème très fondamental qui s'est creusé à partir de Kant. J'aime mieux dire Octave que Descartes. Parce que Descartes n'a été que celui qui a transmis en langue française ce que Octave disait en latin. C'est pour ça qu'il y avait plus de succès pour Descartes. considérés par l'Église comme si, justement, ils pervertissaient l'intelligence. Et les fruits de Occam, on les voit jusqu'à à travers Wolff, on les voit à travers cette espèce d'idéologie qui va faire comme un grand obstacle à la métaphysique, qui va empêcher de comprendre ce que c'est que la métaphysique. Alors, vous voyez, c'est rude de faire ça aujourd'hui, parce que à partir du XIVe siècle jusqu'à Heidegger, donc jusqu'à nous, on a vécu d'une métaphysique qui était une idéologie. Et quand vous regardez dans la scolastique décadente, vous retrouvez pratiquement du vol, vous retrouvez du Occam, du Suarez, et vous ne redécouvrez jamais la pensée authentique de saint Thomas. Vous ne redécouvrez pas ce que représente le point de vue d'Aristote. Vous ne redécouvrez pas ce que c'est que le point de vue de Parménide. Alors on comprend la véhémence d'un Heidegger, vous voyez, de supprimer cette espèce de poids, ce poids d'idéologie, supprimer tout cela pour redécouvrir à sa source le point de vue problème de l'être. Alors il le redécouvre avec Parménide, et on pourrait le redécouvrir aussi en essayant de penser Parménide, Platon, Aristote. Historique, ce serait très intéressant. Et c'est ce qu'il faut faire, du reste. Hein. Si on veut être loyal, et si on veut essayer de comprendre un peu ce problème-là, il faudrait regarder le problème de l'être chez Parménide, le problème de l'être chez Platon, le problème de l'être chez Aristote. Oui. Bon. Je crois que là, au moins, ça vous montre que le problème est très complexe. Et tous ceux qui disent que la métaphysique est périmée, ordinairement, sont du côté de Occam. C'est-à-dire qu'ils identifient la métaphysique et la logique. Alors aujourd'hui, la logique est magnifiée et la métaphysique est rejetée. Personne n'oserait dire aujourd'hui que la logique est périmée. Vous voyez ça? C'est-à-dire que la logique est périmée? Non! La logique, ça devient quelque chose de très vrai. La logique formelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. La logique a pris le pas sur la métaphysique. Or, la logique a pris sur le pas sur la métaphysique, c'est très ancien, c'est pas original de dire ça. Ça s'est fait avec Occam. Et à ce moment-là, on a réduit. Aujourd'hui, on ne parle plus de métaphysique, on ne parle plus que de logique. Vous voyez, c'est la différence, si vous voulez. Et là, c'est l'originalité. Mais au fond, on magnifie des deux côtés la logique, en considérant que la logique, c'est justement ce qu'il y a de plus objectif. Bon, c'est pas vrai du tout, c'est pas ce qu'il y a de plus objectif. La logique repose toujours sur une pensée. C'est toujours une pensée seconde, la logique. C'est jamais quelque chose de premier. Vous pouvez penser mal, et être un excellent logicien. C'est-à-dire n'avoir aucune pensée métaphysique. Et être un excellent logicien. Alors, au bout d'un certain temps, votre pensée logique ne contiendra plus aucun contenu réel. Ce sera uniquement l'être de raison. Il n'y aura plus rien comme pensée réelle. Bon. Alors, vous voyez la situation devant laquelle on se trouve. Hein. On se trouve devant une position qui n'est pas commode du tout. Hein. C'est pas commode du tout d'enseigner la métaphysique aujourd'hui. C'est pas commun du tout d'enseigner la philosophie première aujourd'hui. Parce que, de fait, vous êtes en face d'un Heidegger qui dit « c'est périmé », vous êtes en face d'un Kant qui dit « ça n'existe pas », vous êtes en face d'une quantité de gens qui dit « la métaphysique, non, c'est fini ». Ou vous identifiez la métaphysique et l'ontologisme, et puis en face, vous avez les idéologies athées. Je crois que nous sommes obligés aujourd'hui, si nous voulons vraiment entrer dans le problème de la philosophie première, de le repenser à sa source, de le reprendre radicalement. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Alors, vous comprenez bien maintenant ce que je vous disais ce matin, au-delà des expériences, il y a une méta-expérience. Le problème de la philosophie première à sa source,
point de départ. Hein. Il faut réfléchir là-dessus.
Dès que vous réfléchissez sur le « ceci est »,
c'est dans le jugement d'existence, hein. Vous ne pouvez pas l'exprimer autrement.
« Ceci est », vous voyez, le tout est là, le fait d'exister, comme dira Aristote. Le fait d'être. Le fait d'être. Ceci est. Aristote appelle le tout.
Ceci est,
est devenu
avec Occam, c'est explicite chez Occam,
c'est devenu le tatou. Tatou, ceci est donné. Et le fait d'être, ceci est donné. Adéquat les deux. Voilà la grosse question.
Tout de suite.
Voyez, le datour sera repris chez Heidegger par le esgit. Ceci est donné. Il y a un fait d'exister. Le esgit revient exactement à ceci est donné. C'est un fait, c'est le fait. Le fait que ceci existe. Alors, est-ce que c'est la même chose de dire jugement d'existence et ceci est donné?
Ça, c'est une très bonne réflexion philosophique.
Ça, il faut réfléchir là-dessus. C'est vous-même qui devez essayer de comprendre la différence qui existe entre ceci est et le donné.
Je crois que c'est assez facile de comprendre la différence.
Quand je dis ceci est, je peux mettre l'accent sur est. Je peux mettre, tandis quand je dis ceci est donné, je mets l'accent sur ceci. Mais je peux très bien, s'il y a une composition, le ceci, c'est le sujet, et est, c'est le prévu. Ceci, c'est le nom, et c'est le verbe.
Grammaticalement, d'un point de vue grammatical,
le verbe est relatif au nom.
Ah, c'est sûr, le verbe est relatif au nom, grammaticalement.
L'attribut est relatif au sujet.
Grammaticalement, c'est comme ça, mais je peux très bien, au point de vue de la signification, prend une autre relation. Et dire, ceci est, ce qui m'intéresse, c'est pas le ceci, mais c'est est.
Le ceci, ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ceci est? Quelle est la signification de est?
Non pas du ceci. Ceci, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la vache, ça peut être la table, ça peut être l'homme, ça peut être n'importe quoi, le ceci.
Ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous voyez la différence, hein? Et c'est ça qui est important. C'est que du côté grammatical, je suis incliné, donc du côté logique.
C'est là où la logique est terrible.
Du côté logique, je suis incliné à considérer que le verbe est relatif au nom. Je suis incliné à garder que l'attribut est relatif au sujet.
Donc, du côté logique, je suis incliné à considérer que ce qui est important, c'est le ceci.
D'accord. Vous voyez la logique qui est en train de manger la métaphysique. Alors, vous avez le d'accord. C'est le d'accord qui met l'insistance sur le ceci.
Au point de vue logique, c'est très vrai. Mais au point de vue profond, si je veux être en présence d'une méta-expérience, c'est pas ceci qui m'intéresse, puisque je veux dépasser travail, amour d'amitié, coopération, le devenir, le vivant. Je vois qu'il y a quelque chose de commun.
C'est que tout existe.
C'est que tout est.
Ce qui m'intéresse, c'est le est.
C'est ça que je veux mettre en lumière. Et vous voyez, ça, seule l'intelligence peut le faire. Quand je suis au niveau du nom et du langage, et donc au niveau de la grammaire, c'est juste inverse. Mais c'est là, on voit très bien que la métaphysique est au-delà du langage. C'est là, on voit très bien que la métaphysique est au-delà de la logique. Parce qu'au niveau logique, c'est juste en inverse. Mais dès que j'essaie de réfléchir, je peux très bien me dire ce qui m'intéresse.
Ce n'est pas la diversité des ceci. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est.
Ceci est.
D'où l'interrogation immédiate. Qu'est-ce l'être? Et voilà la philosophie première qui apparaît.
Qu'est-ce que c'est que l'être?
Vous voyez, c'est dans une interrogation qu'apparaît l'être. À partir du jugement d'existence.
Qu'est-ce que c'est que l'être? Qu'est-ce l'être?
Je ne dis pas qu'est-ce que c'est que ceci.
Oh, j'ai pas besoin ça d'une métaphysique. Pour savoir ce que c'est que la table, ce que c'est que la vache, j'ai pas besoin de la métaphysique. Mais pour savoir
et qu'est-ce que c'est que l'être,
ah, alors là, je suis obligé d'entrer dans quelque chose qui est au-delà des étangs. C'est tout à fait juste, au-delà des étangs. Mais pas en niant les étangs. Parce que l'être, il est dans les étangs. L'être, il ne se balade pas en dehors de l'homme. Il ne se balade pas en dehors de la vache.
Il ne se balade pas en dehors de la table. L'être, il est dans la table. La table existe. L'homme existe. La vache existe. Donc, il est dedans. Et je l'explicite grâce à l'interrogation.
Nous reviendrons là-dessus, mais je voulais que vous y réfléchissiez. Réfléchissez sur la différence entre le jugement d'existence ceci et le tatou, le esquive, la ligueur. Ça, c'est très important parce que c'est là où justement on voit ce que représente le vrai tournant métaphysique.
L'apparition